Yeah.
Le journal de 18h. Linda Christelle Ballier.
Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour cette dernière édition de ce vendredi 5 avril sur Radio de la Paix. En titre de ce 18h, fixation du prix du kilogramme du cacao à 1500 francs CFA. D'après le PDCI RDA, cette hausse est insuffisante pour les producteurs qui devraient bénéficier de 60% du prix de vente sur le marché mondial, estimé en ce moment à 6000 francs CFA. Vous entendrez son porte-parole Brindoumi Soumaïla. Et puis les parlementaires ivoiriens ont reçu hier de leurs homologues français, allemands et de l'Union européenne des guides pratiques sur l'élaboration des propositions de loi et sur les procédures d'amendement. Vous aurez leur réaction. Sur le continent, une quarantaine de partis au Gabon dénoncent un dialogue non inclusif. Vous aurez des détails dans cette édition. C'est tout pour l'essentiel. Ouvrons cette édition avec la filière cacao, dont le prix du kilogramme connaît une flambée historique sur le marché international, estimé à près de 6000 francs CFA le kilogramme. Pour le député Soumaïla Brindoumi, porte-parole du PDCI RDA, c'est sous la pression que le gouvernement a augmenté de 1000 francs CFA à 1500 francs CFA le prix du kilogramme en Côte d'Ivoire. Une augmentation qu'il juge insuffisante et précise que les producteurs ivoiriens devraient normalement avoir les 60% du prix de vente sur le marché mondial, à défaut au moins de 2500 francs CFA le kilogramme. Écoutons les explications du député Soumaïla Brindoumi.
Je pense que avant même que nous exprimions notre déception, nous avons demandé au gouvernement de répercuter la hausse du prix du cacao sur le marché mondial aux producteurs ivoiriens qui sont les premiers acteurs de la production du cacao et des matières premières dans notre pays. Nous avons constaté sur le marché mondial une hausse exceptionnelle jamais vue après les années 1974-1976. Jamais nous n'avons vu une telle hausse qui place le cacao au-dessus de près de 4000 francs CFA le kilogramme. Nous avons donc dénoncé, nous avons estimé par nos experts qu'au moment où nous sommes en train de vendre nos cacao actuellement en deuxième campagne, le minimum qu'on devrait offrir aux producteurs, c'est 2500 francs CFA, tenant compte du fait que 60% du prix CAF devrait revenir aux producteurs.
Mais pourquoi 2500 francs CFA?
Parce que si vous prenez 60% du coût actuel, se tournant autour de 2500 francs CFA. Le chef de l'État, dans sa campagne pour accéder au pouvoir, avait promis que 60% du prix CAF, c'est-à-dire le prix de vente kilogramme de cacao à l'exportation, devrait revenir aux producteurs. Et c'est pourquoi nous avons exigé cela. Malheureusement, le gouvernement n'a pas pu le faire. La pression a obligé le gouvernement à faire une augmentation, ce qui n'était pas garanti, mais l'augmentation n'est pas suffisante.
À l'instant, le député du PDCI RDA, également porte-parole Soumaïla Brindoumi. Justement, l'explosion du cours du cacao sur le marché international continue de susciter des réactions, au nombre desquelles celle d'un expert des questions agricoles, géographe et enseignant-chercheur à l'université Jean-Laurouillon-Guédé de Daloa. Docteur Guillaume Nguessan, vous allez écouter, s'interroge sur les marges de manœuvre qu'offre la vente par anticipation à la Côte d'Ivoire dans sa politique de commercialisation et dans un tel cas de figure.
Je fais référence déjà au contrat que la Côte d'Ivoire a signé avec ses partenaires dans la commercialisation. Alors, tout dépend donc du système de commercialisation que la Côte d'Ivoire a retenu. La Côte d'Ivoire a décidé de vendre son produit par anticipation. Néanmoins, revaloriser de 500 francs de plus par rapport au prix de départ qui était de 1000 francs pour cette campagne intermédiaire, c'est déjà salutaire pour les producteurs. Ils auraient souhaité mieux. Mais la question que je me pose, comment dans un système d'anticipation de vente, l'État peut-il revenir pour fixer un autre prix au producteur? Cette interrogation porte à une grande réflexion à tout niveau. Est-ce à dire que les prix qui ont été proposés au départ étaient en deçà de ce qui devait être proposé? Ça veut dire que dans cette vente par anticipation, l'État
s'est donné de la marge.
La possibilité de vendre à plus de 1000 francs.
Donc l'État s'est donné de la marge en fixant ce prix.
Je ne peux le dire, mais vu l'évolution donc de l'actualité du cacao, on se dit que si les contrats ont été signés avant, ça veut dire que certainement l'État s'est donné des marges de manœuvre, comme vous le dites.
Docteur Nguessan, expert des questions, Guillaume Nguessan, expert des questions agricoles, géographe et enseignant-chercheur à l'université Jean-Laure Rougnon-Guédé de Dallois, en ligne avec Ousmane Kanté. Et puis la croissance économique de la Côte d'Ivoire est restée soutenue à 6,5% en 2023 après 6,2% en 2022 et l'inflation a été contenue à 4,4% en 2023 après 5,2% en 2022. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Finances et du Budget Adama Koulibaly le 2 avril dernier à Abidjan à l'ouverture de la deuxième revue du programme économique et financier PEF, couplé avec la première revue de la facilité de résilience et de durabilité FRD dans le cadre de la mission du Fonds monétaire international dans le pays. Et donc, c'est dans le cadre des consultations bilatérales avec la Côte d'Ivoire que se tient la deuxième revue du programme économique et financier, couplé à la première revue, a expliqué Olaf Outero Oberdesta, le chef de mission du FMI.
Vous avez travaillé sur la demande de la facilité FRD et on a en même temps conclu ces négociations. Et c'était un très très bon travail. Cette mission a pour objectif de faire la première revue de ce programme au titre de la FRD, mais aussi la deuxième revue du programme de stabilisation macroéconomique et financier au titre de la facilité élargie de crédit. Les deux programmes apportent un soutien financier à la Côte d'Ivoire d'environ 4,8 milliards de dollars EU. Et c'est l'engagement le plus élevé du fonds en ce moment en Afrique subsaharienne.
Olaf Outero-Oberdesta, le chef de mission du Fonds monétaire international. Restons toujours dans le domaine économique avec cette fois la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique qui organise depuis le 2 avril ce jusqu'à ce jour à Yamoussoukro sa revue de direction au titre du second semestre de la gestion 2023. Cette rencontre a pour objectif principal de dresser le bilan des activités au terme de la gestion 2023 et d'adopter une nouvelle stratégie institutionnelle qui fera l'objet de déclinaisons dans le plan stratégique de développement PSD 2024-2028. On en sait un peu plus avec notre correspondant sur place, Émilie Aou.
Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, aussi Arthur Augustin, a dans son mot d'ouverture situé les enjeux de ces assises de Yamoussoukro.
Notre département ministériel s'est doté d'un plan d'action stratégique pour la période 2024-2025. Il nous appartiendra d'assurer la cohérence entre ce document d'orientation stratégique et le plan stratégique de modernisation et de développement du trésor public qui fera l'objet d'adoption à l'issue de nos travaux. L'ensemble des questions d'intérêt engageant notre administration sera abordé plus en profondeur.
S'inscrivant dans un processus d'amélioration continue entamé par ses prédécesseurs, le tout nouveau directeur général du trésor public entend fixer à ses collaborateurs un nouveau cap. A aussi Arthur Augustin.
J'entends, à l'occasion de ces assises, soumettre à votre appréciation le projet de document de pilotage stratégique découlant de ma vision de faire du trésor public une administration excellente.
Représentant le ministre des Finances et du Budget, le conseiller technique Memba Konkounse Antoine a fait part des attentes concernant le trésor public.
Les contributions attendues concernent premièrement la mobilisation des ressources intérieures, deuxièmement la mise en œuvre de la stratégie de réforme des finances publiques et troisièmement de l'exécution de la stratégie de réforme du secteur financier.
Il est à noter qu'en marge de ces assises, une cérémonie sera organisée à l'honneur de l'ancien directeur général du Trésor à Saoré, Conan Jacques, Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Vie de nos institutions, le Parlement de Côte d'Ivoire s'est vu remettre hier 4 avril à Yamoussoukro par ses partenaires du Sénat français, du Bundesrat allemand et du projet Interpares de l'Union européenne, deux guides pratiques, l'un sur l'élaboration des propositions de loi et l'autre sur les procédures d'amendement. La remise de ces guides a fait place ensuite à la tenue d'un atelier d'appropriation de ces guides. Notre correspondant sur place à Yamoussoukro, Émilie Aou, a recueilli les réactions de certains parlementaires qui s'expriment sur l'importance de ces documents.
Kwasi Kofi-Karapoulin, président de la commission de l'évaluation des politiques publiques à l'Assemblée nationale. Un guide, c'est un cheminement. C'est des normes qui sont dedans qu'on doit respecter pour rendre un peu plus, je veux dire, beau le travail qu'on fait. Un travail de qualité ne peut que bénéficier à nous-mêmes d'abord et aux populations que nous représentons ici. Parce que c'est ça qui est le guide. On a chaque fois besoin de se remettre en cause, de revoir les procédures. On ne les connaît pas toujours, on ne les maîtrise pas toujours, mais ces guides viennent pour simplifier ce travail de compréhension, le travail de législation. C'est pourquoi ces guides sont importants pour nous. C'est des livres de poche qu'on consulte pour avancer, pour mieux faire notre travail. Le travail de législation, le travail d'évaluateur et le travail de contrôle de l'action gouvernementale. Tout y est, parce que ce sont les trois grandes fonctions des parlementaires que nous sommes et nous devons avoir donc ces documents qui sont des vademecum pour nous, des règles qu'on respecte pour aller un peu plus dans l'efficacité, dans l'efficience et aussi dans la pertinence des travaux qu'on mène à l'Assemblée nationale et au Sénat ivoirien.
À sa suite, une autre réaction d'un parlementaire ivoirien sur l'importance toujours des guides reçus des partenaires européens.
Sénateur Bakary Ouattara, président de la commission d'évaluation des politiques publiques au niveau du Sénat. Il faut dire que ces guides sont importants pour nous en tant que sénateurs. Nous sommes une nouvelle chambre et l'évaluation des politiques publiques, c'est la bonne pratique au niveau du contrôle de l'action du gouvernement. Ce sont les bonnes pratiques que nous devons nous approprier. Donc pour cela, il faut que nous sachions faire une évaluation. Et comme nous sommes une nouvelle chambre, il faut maintenant que nous ayons les bonnes pratiques qui sont ailleurs. Et c'est pour ça qu'il était important que nous ayons ces guides-là pour nous guider dans notre travail. Donc nous avons besoin d'être soutenus par des documents de travail pour avoir notre propre expérience. Et étant donné que nous avons travaillé aussi avec des collaborateurs qui sont des administratifs, donc tous ceux-là ont besoin de savoir exactement la procédure pour arriver à une évaluation des politiques publiques. Donc c'est pour ça que ces guides-là sont très utiles pour nous au niveau du Parlement ivoirien.
Vous écoutiez le sénateur Bakary Ouattara, président de la commission des évaluations des politiques publiques au Sénat. Et avant lui, c'était Kwasi Kofi-Krapolin, président de la commission des évaluations des politiques publiques à l'Assemblée nationale. Un nouvel édifice religieux vient d'être consacré à Abidjan, construit sur cette année. La mosquée Mohamed VI a été officiellement inaugurée ce vendredi 5 avril en présence des autorités marocaines et ivoiriennes et construite selon les normes architecturales du peuple chérifin. Cet édifice religieux se veut être un signe de l'amitié ivoiro-marocaine et un lieu de promotion des valeurs prônées par la religion musulmane. Présente à l'inauguration, Christelle Yesso pour son point.
La construction débutée depuis mars 2017, la mosquée Mohamed VI ouvre officiellement ses portes. Pour l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, cette mosquée représente bien plus qu'un édifice.
Elle servira de lieu de rassemblement où les fidèles pourront se recueillir, se ressourcer et renforcer les liens spirituels entre eux. Ce sera aussi un havre de savoir, un pôle de connaissances religieuses et de partage fraternel.
Bâtie sur une superficie de 25 000 m², cette mosquée se veut être l'expression de l'amitié ivoiro-marocaine, explique Drissa Kone, conseiller spécial chargé des cultes, représentant le chef de l'État.
Elle est le symbole manifeste de la vieille amitié entre nos deux nations, qui remonte bien loin en arrière, à l'époque du président souverain marocain, le roi Hassan II, grand ami alors du président Félix Houphouët-Boigny. Et qui se perpétue à travers le temps et à travers les générations.
C'est le quartier Biafra de la commune de Trècheville qui accueille cet édifice dont se réjouit le maire Albert Amichia.
J'ai apprécié le choix de la commune pour abriter cet important don. Et aujourd'hui où nous l'inaugurons, en ce jour béni, le dernier vendredi du mois de Ramadan, pour nous, nous considérons cela comme une bénédiction pour la commune de Trècheville.
Après une visite des différents compartiments de la mosquée, la cérémonie d'inauguration s'est achevée par la grande prière du vendredi effectuée au sein de la mosquée pour la première fois.
Et parlant de l'inauguration de la nouvelle mosquée Mohamed VI, signalons que la nuit de la destinée ou du destin, appelée encore l'Ayat al-Qadr en arabe, sera célébrée par la communauté musulmane dans la nuit du 5 au 6 avril 2024 en Côte d'Ivoire, correspondant à la 27e nuit du mois de jeûne, le Ramadan. Cette nuit est considérée comme la plus sacrée de l'année. Autre sujet à présent, la lutte contre les violences basées sur le genre VBG. Le REPMASI, dans le cadre de ses actions de prévention et de prise en charge des VBG en Côte d'Ivoire, vient d'organiser un panel à Mans sur l'insuffisance rénale, une maladie pratiquement méconnue du grand public et qui, de nos jours, est de plus en plus courante. Le point avec notre correspondant dans le Tonkwi, Stéphane Adams.
Hommes de médias et population dans toutes ses composantes étaient présents à cette conférence pour écouter l'exposé du professeur Yao Kwame Hubert sur l'insuffisance rénale.
L'insuffisance rénale, c'est l'incapacité du rein à assurer les fonctions. Cette insuffisance rénale va entraîner donc une accumulation de déchets dans le sang, donc de la créatinine dans le sang. Et c'est lorsque l'épuration, la fonction d'épuration et de filtration est touchée qu'on parle d'insuffisance rénale. Sinon, on peut avoir ce qu'on appelle la maladie rénale sans insuffisance rénale. En ce moment, c'est les anomalies urinaires que j'ai évoquées plus haut, l'albuminurie ou l'hématurie qui sont présentes dans les urines sans qu'il y ait une anomalie de la fonction d'épuration.
Ensuite, il relève ce qui suit.
Est-ce que l'insuffisance rénale peut être consécutive à une maladie maltraitée? Oui, le paludisme maltraité peut être la cause, par exemple, d'une insuffisance rénale. Un mal de gorge, une angine maltraitée peut être la cause de maladie rénale ou même d'insuffisance rénale. L'hypertension maltraité aboutit à une maladie rénale, ainsi que le diabète, le VIH et tout ça.
Cet élève dit prendre la pleine mesure des enseignements reçus. Dion Sephora.
Ce que je ne savais pas sur la maladie de l'insuffisance rénale, je sais ça aujourd'hui. Donc je vais faire attention à tout ce que je mange. Je lui dis merci pour son exposé.
Notons que l'insuffisance rénale reste tout de même un problème de santé publique. Stéphane Adams, Man, Radio de la Paix.
Dans l'actualité hors des frontières ivoiriennes au Gabon, les débats au dialogue national inclusif ouvert mardi n'ont pas encore démarré. Hier jeudi, les présidents des commissions et sous-commissions ont été nommés par un décret présidentiel. Et donc un groupe d'une quarantaine de partis réunis au sein d'un comité de veille de la coalition pour un véritable dialogue inclusif sont montés au créneau. Au cours d'une conférence de presse, les représentants de ces partis ont dénoncé l'accaparement de tous les rôles par le comité d'organisation et regretté l'affectation de force de leurs représentants au dialogue dans des commissions dont ils n'ont pas forcément la compétence. Et puis le Zimbabwe, plongé dans une grave crise économique depuis une vingtaine d'années, a adopté une nouvelle monnaie baptisée l'or du Zimbabwe et indexée sur le cours de l'or pour tenter de lutter contre l'hyperinflation, annoncée ce vendredi la banque centrale du pays. Le dollar zimbabwéen, pour rappel, a perdu près de 100% de sa valeur par rapport au dollar américain l'an dernier et s'échangeait ce vendredi officiellement à environ 30 000 dollars zimbabwéens pour 1 dollar américain. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Fixation du prix du kilo du cacao à 1500 francs CFA. D'après le PDCI-RDA, cette hausse est insuffisante pour les producteurs qui devraient bénéficier de 60% du prix de vente sur le marché mondial, estimé en ce moment à 6000 francs CFA le kilogramme. Et puis les parlementaires ivoiriens ont reçu hier leurs homologues français, allemands et l'Union européenne des guides pratiques sur l'élaboration des propositions de loi et sur les procédures d'amendement. Vous avez eu la réaction de certains parlementaires dans cette édition. Et sur le continent, une quarantaine de partis au Gabon dénoncent un dialogue non inclusif. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, votre magazine humanitaire présenté par Sonia Ndian. Excellente soirée à vous et bonne nuit du destin.